experience the world premiere of Flora, a powerful story of resilience and renewal, presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration takes you on a journey through the evolution of Australian flora, bringing together artists drawn from two of Australia's leading dance companies. Flora promises to be unmissable. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de l'épisode que nous consacrons à l'ancien Premier ministre John Howard. Dans celle-ci, on va s'intéresser plus spécifiquement à la période qu'il a passée pendant 13 ans dans l'opposition au Parlement. C'est aussi la période durant laquelle il a réussi à s'affirmer comme leader de son camp, c'est-à-dire celui du Parti libéral et de la coalition. Très bonne écoute à tous. Alors, vous venez de le souligner, il y a un clivage assez net au sein même de la coalition sur le plan économique à cette période. Ils perdent donc le pouvoir en 83 et c'est le début d'une longue période passée dans l'opposition puisque les travaillistes, comme on l'a mentionné dans les épisodes précédents, vont rester au pouvoir 13 années, de 83 à 96. Vous le disiez également, John Howard, c'est un peu à cette période où il va essayer de reprendre le leadership de son parti, mais c'est vraiment une période tendue puisque donc il y a des clivages sur des questions majeures comme l'économie, mais aussi des rivalités internes très très fortes. C'est vraiment pas la joie.
Ah oui, c'est pas la joie. De ce point de vue-là, si on le comparait à un parcours politique français, c'est un Mitterrand ou c'est un Chirac, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui très tôt sait qu'il veut continuer et qu'il veut avoir le top job, comme on dit ici. Et donc, à partir de ce moment-là, il continue malgré les revers, malgré les hauts et les bas. Il s'accroche. Il réseaute, il se fait des alliés, il se fait aussi des ennemis, mais il travaille. Il travaille à unir le parti, à le consolider, comme Chirac, comme Mitterrand en son temps. Et donc, c'est un homme de parti, et pendant les années, donc entre 83 et 96, c'est énorme, hein, 13 ans, il est dans l'opposition. Alors, il est chef de parti pendant quelques années, puis après, il perd le leadership. Et c'est qu'en 95 qu'il le regagne, juste avant l'élection qu'il va gagner en 96. Et pendant ces années-là, si vous voulez, John Howard, il propose une plateforme électorale, ce qu'il a appelé One Australia, l'Australie unie ou l'Australie une, unifiée, je ne sais pas trop comment le traduire. Mais enfin, l'idée, c'est One Nation and One Future, une nation et un futur. Donc ça dit très clairement que le multiculturalisme c'est pas trop son truc et que voilà, socialement c'est une Australie assez conservatrice. Alors vendre ce projet électoral pendant les années de gauche sous Hawke et Keating, vous avez vraiment pas le bon produit, hein. C'est-à-dire que ça n'attire pas les foules, mais progressivement on voit que il continue à mener sa barque et que c'est quelqu'un qui propose ses réformes ou disons la limitation des réformes qui ouvriraient l'Australie et puis un retour de balancier. C'est-à-dire que pendant les années Hawke et Keating, il y a une certaine partie de l'Australie qui voit qu'effectivement il y a des progrès dans le monde du travail, qu'il y a du progrès dans les salaires, sur la couverture sociale et ça ils sont d'accord. Mais en même temps, il y a une partie grandissante des Australiens qui s'inquiète par rapport à la mondialisation, qui s'inquiète par rapport à l'immigration de plus en plus diversifiée dans le pays, qui s'inquiète également vis-à-vis des valeurs. Hawke et Keating posent la question du drapeau, de l'hymne national, est-ce qu'il ne faudrait pas en changer? Et ça hérisse le poil de certains Australiens qui pourraient avoir une fibre de centre ou du gauche, mais qui culturellement sont plutôt à droite. Et donc en fait, John Howard, sans trop rien faire et en restant droit dans ses bottes et cohérent avec sa ligne de pensée idéologique, commence à gagner des points au début un peu malgré lui, et puis finalement c'est les autres, c'est le parti adverse qui fait le travail. Si bien que l'élection de 96, il la remporte haut la main, en n'ayant quasiment pas fait campagne sur le fond. C'est-à-dire que grosso modo, il a fait campagne, hein, vraiment, mais en ne promettant pas grand-chose, et puis surtout en disant ben voilà ce que les autres ont fait, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Ward? Oh, on verra. Mais enfin, moi je ne suis pas comme eux. Vous voyez, c'était la politique minimale où vous ne révélez pas vos cartes, vous êtes simplement dans l'opposition.
Et donc, ça s'avère payant. En 1996, accessoirement, les travaillistes enregistrent à ce moment-là l'une de leurs plus lourdes défaites électorales de l'histoire. Et John Howard n'a pas vraiment le temps de célébrer, on va dire, puisque à peine un mois après être devenu Premier ministre, il y a un drame qui frappe l'Australie. C'est ce qu'on appelle le massacre de Port Arthur.
Oui, effectivement. Alors, vous avez un malade, hein, qui abat de mémoire plus de 35 personnes. Nous avions fait un épisode sur Port Arthur et qui en blesse de nombreuses autres. Il fait un carton, hein, dans un site historique de l'ancienne colonie pénitentiaire de Port Arthur, qui est donc en Tasmanie. Et John Howard, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que plutôt de droite, et en particulier parce qu'une partie de son parti libéral est alliée à un parti country, à un parti si vous voulez, on pourrait dire, et donc agriculteur et donc port d'armes, lui dit écoutez, ça va pas le faire, il faut impérativement, pour qu'on ne devienne pas les États-Unis, que nous régulions le port d'armes et la possession des armes et quel type d'armes on peut posséder. Et il a le soutien d'une grande partie de la population qui est absolument choquée. C'est-à-dire que c'est un massacre qui est hors norme et les Australiens ne sont pas du tout habitués à ce type de massacre. Et donc, il a la majorité du centre, de droite, disons modérée, et de gauche pour mener ses réformes. Et il a le courage, parce que ça, il faut lui reconnaître, il a le courage de faire des meetings en expliquant à la frange la plus à droite de son parti qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire il aurait pu avoir une approche électoraliste en disant bon, allez, on laisse couler l'eau sous les ponts et puis on verra ce qui se passe. Et je crois que moralement pour lui, c'est là où il a marqué la limite en disant non, ce qui compte vraiment c'est la vie des gens. Il a pris la bonne attitude et ça il a vraiment marqué des points. C'était un danger à l'époque. Mais il a marqué des points parce que encore aujourd'hui, on se souvient de lui pour ça. Il a promulgué toute une série de législations visant à réduire le droit du port d'armes, le type d'armes que les gens pouvaient se procurer, et il a fait racheter par le gouvernement australien des centaines de milliers de mémoire, hein, des centaines de milliers, on est à cet échelon-là, d'armes que les Australiens possédaient chez eux pour les détruire. Donc il a réduit énormément la circulation des armes dans la société australienne. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une politique qui est réussie. Que l'on soit de gauche ou de droite en Australie, c'est quelque chose qu'on met à son crédit encore aujourd'hui. Et effectivement, ça marque son arrivée au pouvoir parce que, disons qu'il n'a pas le temps de se faire au fauteuil. Il est tout de suite projeté dans un événement dramatique. Et après, il se met au travail.
Alors, on avance un petit peu dans son exercice de pouvoir. On est cette fois en 99. John Howard en est à son second mandat. Et cette année-là est organisé un référendum qui demande à la population australienne si elle souhaite devenir une république. Et le paradoxe dans cette histoire, c'est que John Howard, il a absolument pas envie que l'Australie devienne une république. Il est pro-monarchie à fond.
Ah oui, mais avant de parler de 99, donc il arrive en 96 aux commandes, il organise une autre élection en 98 avant la fin de son mandat parce qu'il sentait que le vent tournait. Il la remporte cette élection de justesse, hein, il perd une partie de sa de sa majorité. Disons qu'il a une majorité plus soft qu'il ne l'avait avant, parce que dans son premier mandat, il mène un certain nombre de réformes, comme par exemple la TVA, GST en Australie. Il avait dit avant qu'il soit élu que non, il n'y aurait pas de nouveaux impôts en Australie. Quand vous êtes de droite, normalement, c'est un peu votre feuille de route. Et John Howard a créé cet impôt de TVA. Alors à l'époque, ça ne passe pas du tout. Aujourd'hui, chacun s'accorde pour le remercier, en fait, parce que ça a créé une manne financière pour l'État fédéral qui a permis de donner plus de voilure à l'État fédéral et donc de consolider l'Australie dans tout un tas de domaines. Mais à l'époque, c'était mal perçu. Et donc, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Il gagne l'élection et effectivement, en 99, il est tenu d'organiser un référendum sur la République qui avait été décidé et organisé par le gouvernement Keating. Donc en fait, c'est un héritage, voilà, c'est une promesse dont il a hérité d'un ancien gouvernement. Tout était en place et donc il se devait d'honorer la voix du gouvernement, même si ce n'était pas le sien. Et il a tout fait, absolument tout fait, pour faire capoter ce référendum sur la République. John Howard est un monarchiste, c'est un fan de la monarchie britannique. Là-dessus, il est vraiment l'héritier de Menzies, hein, son idole du Parti libéral. Voilà, on le voit souvent avec la famille royale. De mémoire, ça a été le premier ministre australien à se rendre à des funérailles royales, celle de la mère de la reine Elisabeth. Donc voilà, pour lui, l'Australie, elle doit être monarchiste, elle doit être dirigée par la reine ou le roi d'Angleterre, elle doit être représentée sur place par le gouverneur général qui est le chef d'État nommé par Sa Majesté la reine ou le roi. Donc c'est un conservateur à l'ancienne de ce point de vue-là. Et il explique aux Australiens que bon, bah la République c'est bien, mais alors qui va être président et comment on va l'élire, ça va créer tout plein de divisions et de problèmes. Bon, bah autant ne pas changer en fait, on est très bien. Et il y arrive parce qu'à l'époque, la majorité des Australiens sont pour une République, deux tiers hein, quasiment, mais ils ne s'accordent pas sur le type de République. Est-ce que c'est une république parlementaire ou est-ce que c'est une république présidentialiste?
Do you suffer from cold drafts? Do your windows rattle and jam? You need Sealessash, the wooden window experts. Our draft sealing and glazing retrofit services are designed to have your original windows working as well as brand new double or even triple glazing. Our vacuum insulated glass from Japan is so thin, it will make your home quieter and more thermally efficient than ever before without compromising the architecture. Contact Sealessash today to give your wooden windows a 21st century makeover.
Stream free on SBS On Demand. The Hospital in the Deep End. Our hospitals are under pressure like never before.
Oh my God.
And when the system buckles, we all pay the price.
That's not good.
In this landmark series, three notable Australians step onto the front line to see what it really takes to save a life.
I honestly didn't think it was like that.
The Hospital in the Deep End. Stream free on SBS On Demand.
J'allais dire, il empoisonne un petit peu le référendum, donc dont il ne veut pas, mais qu'il est un petit peu obligé d'organiser, et il le pollue entre guillemets en posant aux Australiens non pas une seule question, mais deux.
Oui, complètement. En fait, si vous voulez, lui, l'option qu'il a choisie, c'est de dire bon, on va aller au référendum et je vais le gagner. Et je vais le gagner en étant pro-monarchiste, en pourrissant le débat et en faisant en sorte de poser des questions compliquées que les Australiens vont pas comprendre et que de toute façon, traditionnellement, c'est deux fois plus dur de gagner un référendum que de le perdre. Donc, a priori, l'histoire est de mon côté parce que le référendum sera probablement, le non l'emportera. Et il a eu raison. Et il a mis fin à plus de 35 ans de débat en Australie sur la question de la République, alors même que la majorité des Australiens souhaitaient une République parce que c'était reconstruire une image d'eux-mêmes, c'était sortir de l'Australie coloniale avec l'Union Jack, le drapeau britannique, voilà, c'était une Australie moderne pour le 21e siècle. John Howard ferme la porte à cette Australie moderne du 21e siècle.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la troisième partie de cet épisode consacré à John Howard. On s'intéressera plus précisément aux politiques qu'il a mises en place à l'endroit des aborigènes, mais aussi des demandeurs d'asile ou des immigrés, une période au cours de laquelle son discours s'est très largement tendu. On peut même dire qu'il s'est d'une certaine manière radicalisé. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Do you suffer from cold drafts? Do your windows rattle and jam? You need Sealisash, the wooden window experts. Our draft sealing and glazing retrofit services are designed to have your original windows working as well as brand new double or even triple glazing. Our vacuum insulated glass from Japan is so thin, it will make your home quieter and more thermally efficient than ever before without compromising the architecture. Contact Sealisash today to give your wooden windows a 21st century makeover.